km à l'heure en rafale. Partout ailleurs, c'est le soleil qui domine ce matin à l'ouest de la Bretagne jusqu'au Limousin. Il y a quelques passages de nuages partout ailleurs, avec même quelques averses près des frontières du nord et du nord-est. Et cet après-midi, on va retrouver un découpage classique nord-sud au sud d'une ligne qui passe par Nantes, Bourges, Lyon. Vous aurez du soleil, quelques averses en montagne, c'est classique en été. Et au nord, encore quelques passages nuageux et des averses parfois orageuses entre les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté. Les températures contrastées comme le ciel, 19 à 25 degrés sur la moitié nord, 23 à Paris, 24 à 31 sur la moitié sud. Là, c'est deux saisons estivales, 27 à Bordeaux, 29 à Marseille et Avignon.
Merci Anthony, samedi 2 août, on est ravis de vous accompagner ce matin sur RTL, il est 8h.
RTL Matin
avec Antoine Cavallero.
Et voici un nouveau journal avec Chloé Geffroy. Bonjour Chloé.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une, vous êtes déjà très nombreux sur les routes des vacances.
Journée noire dans le sens des départs, il va falloir s'armer de patience. Déjà plus de 200 km de bouchons. On fera le point sur le trafic dès le début de ce journal. C'est une affaire qui secoue depuis 3 jours. Vic la Gariole dans l'Hérault, une assistante maternelle soupçonnée d'avoir violé et agressé sexuellement 9 enfants. Un métier qu'elle exerce depuis plusieurs années, on l'entendra. Au Mondiaux de natation de Singapour, les muscles de Léon Marchand au repos avant un nouveau plongeon demain dans le bassin. Et puis on lèvera les yeux au ciel, c'est toujours plus joli que de regarder ses pieds. 35e édition de la Nuit des Étoiles, c'est ce week-end partout en France.
RTL Matin.
Un conseil prévoyait de quoi occuper les enfants sur la route des vacances.
Un petit livre, un coloriage ou un dessin animé sur la tablette, comme vous préférez. En tout cas, pour tous les chanceux qui partent, prendre du bon temps. Impossible d'échapper aux embouteillages. Journée noire partout en France. Esther Abitbol, bonjour.
Bonjour Chloé.
On est déjà à plus de 200 km de bouchons, Esther, à l'heure où l'on se parle.
Oui, et si vous partez en direction de Marseille, préparez-vous, ça bouche déjà bien. Plus de 80 km de ralentissement sur cette autoroute. Des embouteillages majoritairement concentrés dans la Drôme, entre Reventin, Vaugry et Albon, mais aussi entre Châteauneuf-sur-Isère et Étoile-sur-Rhône. Plus au sud, sur la 9, en direction de Barcelone, je vous signale ce ralentissement entre Orange et Roquemort dans le Gard. Ralentissement qui s'étend sur près de 10 km et ça risque de se compliquer au fil de la journée. Enfin, en Ile-de-France, important embouteillage sur l'A10 vers Bordeaux. Un accident vient de se produire à Dourdan, en Essonne. Vous allez croiser un véhicule léger qui a pris feu. Conséquence directe sur votre trajet. Vous mettrez plus d'une heure à rejoindre Pont-Évrard depuis Genvry en Essonne.
Merci Esther pour toutes ces précisions sur le trafic. RTL vous accompagne toute la matinée et vous donne vos conditions de circulation.
Tandis que certains ont décidé de ne pas trop subir leur trajet des vacances.
Les pieds en éventail près de chez soi et à prix cassé, c'est le choix de certains Français face à l'inflation galopante dans à peu près tous les secteurs, à commencer par les tarifs de l'énergie. On peut prendre du plaisir n'importe où et pas forcément face à la mer. C'est ce que vous avez pu constater, Dimitri Ramelot, au camping du Passe-Temps à Bayon. Reportage à 40 km au sud de Nancy.
Déjà une semaine de vacances pour Daniel et sa femme et pas très envie de revenir chez eux à Essel et Nancy, à 30 km de là.
On habite dans une résidence et là on est à l'air. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Et on est bien, les voisins c'est sympa, on fait le barbecue, on paye 180 euros par mois, c'est pas non plus...
Ah oui, c'est des vacances très peu chères.
Ah oui.
Et s'il ne paye que 20 euros par jour pour son camping-car, l'argument n'a pas été que financier dans le choix de Thierry, venu de Moselle à 70 km.
On prend l'air.
C'est aussi efficace que si on partait loin ?
Moi, je vois pas la différence. À part le soleil, la chaleur, mais bon, moi, un petit 25-26 degrés, ça me suffit largement.
Et sur l'emplacement d'à côté, Christiane, qui a parcouru 25 km, a trouvé ici son bonheur. Les habituelles vacances à Palavas-les-Flots, terminées.
Il y a trop de bruit, il y a trop de monde.
Vous êtes là combien de temps ?
Oh, jusqu'à la fin août, déjà, on verra bien le temps.
Près d'un emplacement sur 5 est occupé par des vacanciers venus du département ou de la région. Et Quentin Janson, le gérant, est fier de pérenniser sa clientèle.
Il y en a qui habitent à moins de 2 km à vol d'oiseau. Je suis parti avec 20 et quelques habitués, on n'est pas loin de 30 là.
Et les locaux côtoient les vacanciers venus d'un peu plus loin, comme des Néerlandais ou des Allemands, qui eux aussi reviennent chaque année.
Le reportage de Dimitri Ramelot.
Et aux alentours de 9h-10, nous serons avec le chef Thierry Marx, patron du syndicat des hôteliers et des restaurateurs. Le bilan du mois de juillet, les réservations qui sont en baisse dans les hôtels, le sort des restaurants qui est préoccupant. Il sera avec nous en studio. Dans l'Hérault, l'assistante maternelle soupçonnée de viol et d'agression sexuelle a-t-elle fait plus de 9 victimes ?
C'est la question qui se pose aujourd'hui, alors qu'une enquête est ouverte par le parquet de Montpellier après le dépôt de deux plaintes de deux parents d'élèves à Vic, la Gariole. Ils accusent cette femme de viol et d'agression sexuelle sur des enfants de 3 à 4 ans, des filles et des garçons inscrits en petite section de maternelle. Et on apprend ce matin qu'elle exerce ce métier depuis déjà de longues années, Valentin Larquier.
Oui, la mairie de Montpellier nous confirme qu'elle a employé pendant 10 ans cette ATSEM entre 2014 et 2024. À ce stade, aucun signalement n'a été retrouvé sur cette période. Mais les services municipaux font des recherches sur son passé, sur son profil. Ils essaient de retrouver les écoles où elle a travaillé, notamment pour contacter les directrices. Cette ATSEM de 59 ans est ensuite arrivée à l'école de Vic-la-Gardiole au mois d'octobre 2024. C'est un village de 3500 habitants situé à 20 km de Montpellier. Selon le parquet, c'est dans cette école maternelle qu'elle est suspectée de viol et d'agression sexuelle. Elle aurait agi sur des enfants de 3 à 4 ans pendant les siestes ou dans les toilettes.
Les précisions de Valentin Larquier.
2000 foyers recensés en un mois. Les cas de fièvre catarrhale ovine explosent particulièrement dans l'ouest de la France.
Le ministère de l'Agriculture appelle les éleveurs à vacciner d'urgence pour ne pas reproduire le scénario catastrophe de l'an dernier. On a beaucoup parlé de la dermatose nodulaire qui touche les bovins ces derniers jours. Pierre Herbulot, c'est quoi exactement la fièvre catarrhale ?
C'est une maladie véhiculée par les mouches qui touchent les brebis. Les bêtes ont de brusques montées de fièvre, leurs organes sont touchés. Dans le meilleur des cas, la production de lait est affectée. Dans le pire, les bêtes meurent. Jusqu'à 15% des troupeaux sont décimés par la FCO qui dégrade également la fertilité des bêtes survivantes. Les mâles deviennent parfois stériles quand les femelles avortent. Très dur à long terme pour une filière qui vit à la fois du lait et de la viande de ces animaux.
2000 foyers détectés en un mois. Est-ce que c'est beaucoup, Pierre ?
C'est une progression très rapide, mais elle reste concentrée sur la Bretagne, notamment le Morbihan et la Bourgogne. À titre de comparaison, entre août 2024 et juin 2025, près de 11 000 foyers ont été recensés, principalement au Pays Basque, dans le nord et l'est de la France.
Alors, y a-t-il un moyen de lutter contre cette maladie ?
Oui, pendant la vague de l'été dernier, un vaccin a été mis à disposition et il est efficace. 7 millions de doses sont disponibles, elles sont même gratuites dans certaines régions. D'où ce rappel du ministère de l'Agriculture relayé par la Fédération nationale ovine aux éleveurs. Vaccinez vos troupeaux.
Merci Pierre Herbulot pour toutes ces explications.
Il est 8h07 sur RTL. Cette escalade entre Washington et Moscou, Donald Trump brandit la menace nucléaire.
Et annonce déployer 2 sous-marins nucléaires suite aux propos sur les réseaux sociaux de l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Ce dernier a fait référence à la main morte, un ancien programme nucléaire ultra secret de l'Union soviétique en cas de destruction de sa chaîne de commandement. Une allusion qui n'est clairement pas passée auprès du président américain.
Une menace a été proférée par un ancien président russe. Je dois donc être très prudent. Je le fais pour assurer la sécurité de notre peuple. Nous allons protéger notre peuple. Vous n'avez qu'à lire ce qu'il a écrit. Il a parlé de nucléaire et quand on parle de nucléaire, il faut être préparé. Et nous le sommes complètement.
Les propos du président américain Donald Trump.
10 des 40 tonnes de vivres promises par Paris ont été livrées hier dans la bande de Gaza.
Un système de largage aérien critiqué par les ONG. Une goutte d'eau dans l'océan. Les Nations Unies estiment que cela ne va pas résoudre la famine criante que connaissent 2 millions de Gazaouis après 22 mois de guerre. RTL a pu joindre Jean-Guy Watteau, le coordinateur de Médecins Sans Frontières à Gaza, est actuellement en territoire palestinien et il dénonce une action humanitaire dérisoire.
Je rappelle qu'il y a 2 millions de personnes aujourd'hui à Gaza qui sont regroupées sur 45 km², l'équivalent de la ville de Compiègne. Donc prenez la ville de Compiègne, mettez-y 2 millions de personnes et ensuite larguez des palettes de 500 kilos en essayant de ne blesser personne. Vous comprendrez que c'est assez difficile. Des avions qui vont larguer de la nourriture, un dispositif potentiellement dangereux, extrêmement cher, totalement inutile. Aujourd'hui, ce qui va être largué correspond à 1% des besoins chaque jour de la bande de Gaza. Ces largages de nourriture, ceux de la France aussi, relèvent donc de la poudre aux yeux. L'avantage des largages de nourriture, il y en a un, c'est que aux endroits où c'est largué, l'armée israélienne soit n'est pas présente, soit a reçu les ordres de ne pas tirer dans la foule.
Un propos recueilli par Vincent Serrano. Depuis la fin du mois de mai, près de 1400 Palestiniens ont été tués alors qu'ils allaient chercher de la nourriture.
Et maintenant, cap vers Singapour, où nous suivons les championnats du monde de natation.
Oui, et pas de course aujourd'hui pour Léon Marchand, mais une journée de récupération importante avant le bouquet final demain. Le quadruple champion olympique est notamment à attendu pour une nouvelle médaille d'or sur 400 mètres, 4 nages, Isabelle Langer.
Léon Marchand vise en effet un troisième titre mondial sur cette distance, mais contrairement à d'habitude, cette course n'est pas placée en début, mais en fin de programme. Et ça change tout, parce qu'il a quand même laissé quelques plumes avec son titre et surtout son record du monde du 200 mètres 4 nages, et qu'il s'est un peu moins entraîné cette saison post-olympique. Nicolas Castel, son entraîneur en équipe de France.
Peut-être qu'il va manquer un peu de volume d'un certain côté, mais d'un autre côté, il a quand même progressé techniquement, il a gagné en puissance, donc ça pourrait contrebalancer aussi ce manque de volume. Donc maintenant, ça va être une question de gestion, mais en tout cas, il peut quand même nager vite.
D'ailleurs, certains, après son record du monde sur 200 mètres 4 nages, s'amusaient à faire des conversions sur ce que cela pourrait donner sur la distance supérieure, ce à quoi Léon Marchand réplique.
Ouais, bon, ça marche pas en général. Ça, les maths aussi scientifiques, ça marche pas en natation, c'est très humain, donc je vais pas faire deux fois le temps que j'ai fait à 200 mètres 4 nages. Mais on verra bien, je sais pas trop ce qui va se passer.
L'essentiel, c'est d'abord d'aller chercher le titre demain après-midi, et peut-être, si tout se passe bien, disputer une demi-heure plus tard la finale du relais 4x104 nages avec les Bleus.
Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL à Singapour.
Et puis c'est l'un des événements du week-end, la 35e édition de la Nuit des Étoiles.
Plus de 500 manifestations gratuites partout en France, l'occasion de lever les yeux au ciel. La période de fin juillet à mi-août est la plus propice pour observer notamment les étoiles filantes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel ? Réponse de Olivier Las-Vernias, président de l'Association française d'astronomie.
Alors la Lune, faut la regarder entre le sud et l'ouest. On a cette année un très beau premier quartier en début de nuit. Donc c'est l'occasion de voir les cratères, les montagnes et donc de se promener sur la Lune. Ça c'est tout début de nuit. Et puis ensuite, pour minuit exactement, on voit Saturne qui se lève. Il faut un horizon bien dégagé vers l'est. Et puis si on est courageux, on peut continuer à la quête de quelques étoiles filantes. Et juste avant l'aube, le clou de la nuit, c'est le lever de Vénus et puis ensuite de Jupiter qui brille très 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 visible dans le ciel de l'aube. Et si on a la chance d'être loin des lampadaires, eh ben on peut surtout voir la Voie lactée. Et ça, se promener à l'œil nu ou aux jumelles dans la Voie lactée, ça sera un nouveau souvenir de l'été.
Voilà, propos recueillis par Sophie Jousselin.
Merci Chloé Geffroy, on vous retrouve à 9h.rtl.fr pour toute l'actualité. Les courses, le quintet du jour se joue du côté de Clairefontaine-Deauville, départ à 15h15. Alexandre de Kopman vous conseille de jouer le 12, le 4, le 3, le 10, le 2, le 8, le 11. L'outsider de RTL, c'est le numéro 10. Dans un instant, il s'exprime très peu dans les médias. Il répond à RTL ce matin. Le président de Speedy, Eric Terefenko, nous dit pourquoi ces centres refusent de prendre en charge les voitures équipées d'airbags Takata. On sera aussi du côté de Lorient. C'est notre reportage fil rouge du jour. Le coup d'envoi du festival Interceltic. À tout de suite.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
Virginie Grimaldi, c'est l'autrice française la plus lue cette année. Dans Les Heures Fragiles, elle raconte nos vies, celles d'une mère et de sa fille adolescente, les liens précieux mais délicats qui les unissent. Avec sensibilité et humour, Virginie Grimaldi nous livre un roman tendre et intense, bouleversant et drôle. Les Heures Fragiles, le grand roman de votre été, chez Flammarion.
Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine?
Dans les magasins U, il y a du melon à prix coûtant et à seulement 1,05€ la pièce. Je m'entraîne pour être le premier sur le coup. Allez, 99 et 100.
Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 31 juillet au 2 août dans vos magasins U, le melon charentais jaune à prix coûtant est à seulement 1,05€ la pièce. 1,05€. Dans vos magasins U et sur Course U.
Calibre 750, 975 grammes, origine France. Par modalité et magasin participant sur magasin-u.com.
Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire.
Tout à l'heure, nous embarquons en première classe pour un trajet romanesque entre Paris et Istanbul. L'Orient Express, un train nommé Désir. C'est tout à l'heure, à midi, dans Entrée dans l'histoire sur RTL.
Entrée dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France. RTL Matin
avec Antoine Cavallero.
8h14, on voulait s'arrêter ce matin sur l'une des conséquences du scandale des airbags Takata. Certains garages refusent de prendre en charge les véhicules concernés, dont les centres Speedy. Nous sommes en ligne avec le président Eric Terefenko. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Votre parole est rare dans les médias. Merci de répondre à notre invitation. Il faut le dire d'emblée, vous ne changez pas les airbags. Ce n'est pas votre rôle, c'est celui des concessionnaires. Pourquoi vous refusez d'intervenir sur ces véhicules ?
Alors, je pense que nous ne refusons pas d'intervenir. En fait, nous avons bien en place un processus pour la sécurité de nos clients et la sécurité de nos collaborateurs. Donc, ça signifie qu'on invite nos clients, on les informe, on les rassure.
Attendez, donc on est bien d'accord, si un client au volant d'une voiture équipée d'un airbag Takata vient pour un pneu crevé, vous ne réparez pas la voiture, vous ne la touchez pas?
Absolument, nous l'encourageons vraiment, et pour peu qu'il ne soit pas informé, on peut même l'aider à avoir la bonne information, et on le dirige vraiment vers son constructeur et le réseau de son constructeur pour qu'il fasse les opérations qui lui ont été recommandées et qu'il puisse revenir très vite chez nous pour faire les opérations suivantes.
Eric Tafenko, le redit, ce rappel concerne 800 000 voitures, les rappels de ces dernières semaines. Vous êtes une grande enseigne, c'est quand même difficile de rejeter autant de clients potentiels.
Encore une fois, on ne les rejette pas, on les invite à faire les choses dans le bon ordre, à savoir faire en sorte que leur véhicule soit en sécurité pour eux-mêmes et pour pouvoir effectivement faire les opérations qui leur permettent après de circuler, je dirais, longtemps.
Bon, donc on aura compris que vous voulez la sécurité de vos salariés. Depuis le rappel ces dernières semaines, combien de véhicules équipés d'airbag Takata avez-vous vu passer dans vos centres?
Alors, je ne peux pas vous le dire pour la simple et bonne raison que jusqu'à ce jour, nous n'avions pas de vérification particulière sur le sujet. Donc, on n'est pas en train de mesurer aujourd'hui ce point-là, mais on sera en mesure effectivement de pouvoir le faire dans les prochaines semaines.
Eric Tarefenko, nous sommes donc en plein week-end de chasse et croisée. Vous voyez passer des dizaines de milliers de véhicules par vos centres. Quel est l'état général de nos voitures?
Les véhicules, globalement, je dirais, sont bien entretenus. C'est pas au moment du chassé-croisé qu'on les voit le plus, on les voit beaucoup plutôt en amont des départs en vacances. Mais effectivement, on a un grand nombre de nos clients qui prêtent attention à l'entretien de leurs véhicules pour continuer à rouler en sécurité. Et puis notre rôle, c'est de leur apporter des conseils et de faire en sorte que si jamais ils ont un petit oubli sur la sécurité, eh bien, on puisse leur apporter les conseils appropriés.
Et quels conseils, justement, vous pourriez donner aux auditeurs de RTL qui vous écoutent ce matin?
Encore une fois, je dirais, l'objectif, et c'est effectivement la même recommandation chaque année, c'est de bien vérifier l'état de son véhicule, à commencer par l'état d'usure des pneus, le gonflage des pneus, faire une bonne révision avant de partir pour être en parfaite sécurité et tout au long du trajet. Mais c'est effectivement les organes de sécurité en priorité au moment de partir en vacances.
Oui, d'accord, mais les prix ont sérieusement grimpé dans les garages ces derniers mois, ces dernières années, plus que l'inflation d'ailleurs.
Encore une fois, je dirais, nous ce qu'on essaie, c'est d'apporter depuis toujours des solutions à nos clients, au meilleur prix, meilleure qualité, et on est fidèle à cette logique qui est de toujours faire attention et au pouvoir d'achat de nos clients et à la qualité de ce qu'on leur offre.
Oui, mais Eric Tarefenko, il y a tout de même une hausse des prix. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'elle s'explique par le prix des pièces détachées, par exemple?
Il y a eu à une époque, effectivement, je dirais, une hausse des prix des pièces détachées. Il y a eu une hausse dans l'ensemble des coûts d'exploitation des centres qu'il peut y avoir. Mais il y a également, effectivement, l'attention que l'on a, nous, à faire, ne pas faire supporter trop d'à-coups à nos clients. C'est pour ça qu'on y prête une attention particulière, qu'on fait des opérations promotionnelles pour leur permettre d'accéder aux meilleures conditions au moment où ils en ont besoin.
Mais combien ça coûte de venir réparer sa voiture chez vous?
Ah ben, ça dépend de la réparation.
Quel est le ticket moyen?
Le ticket moyen dans nos centres, c'est environ 240-250 euros.
Ouais, 250 euros le ticket moyen chez Speedy. Eric Tarefenko, je voulais qu'on aborde aussi la question du problème de main-d'œuvre dans le secteur en 2024. 18 000 postes n'ont pas été pourvus. Vous peinez, vous avez du mal à recruter chez Speedy.
Oui, il n'y a pas de secret. Nous recherchons toujours des collaborateurs de qualité, avec les bonnes formations, les bonnes expériences qu'on va pouvoir développer. Mais c'est toujours effectivement un sujet d'attention très fort dans notre réseau.
Mais comment ça s'explique?
Il y a eu
c'est un problème de formation, c'est un problème de vocation.
Il y a un problème global, il y a un problème effectivement de valorisation de la profession. Donc on continue à essayer de bien valoriser la profession.
Est-ce que les salaires sont assez attractifs?
Je pense que globalement, on fait ce qu'il faut pour que nos collaborateurs puissent bénéficier des bons salaires au bon moment avec la contribution qu'ils apportent. Donc je pense que la question est plus une question de continuer à leur donner une perspective que juste une question salariale.
Merci beaucoup Eric Tarefenko.
Mais je vous en prie.
Président de Speedy, merci d'avoir répondu à l'invitation de RTL ce matin sur le dossier des airbags Takata. Vous avez un dossier complet sur rtl.fr. Dans un instant, on file en Bretagne. Et oui, c'est la région du jour, le Morbihan. Nous y sommes notamment pour le festival interceltique de Lorient.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos melons Origine France ont tout d'un très bon melon. Frais et sucrés, ils provoquent toujours les mêmes débats au moment de les choisir. Mais non, mais l'odeur a rien à voir, mon vieux, mais c'est si la peau est craquelée qu'il est bon. Oui, vraiment, nos melons ont tout d'un très bon melon, mais à prix discount. 1,29€ seulement la pièce. Oui, 1,29€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, variété charentais jaune, offre valable jusqu'au samedi 2 août, info sur aldi.fr.
RTL, à vos côtés.
Salut les copains RTL, alors Lucien et moi, depuis La Réunion, nous vous souhaitons un super bel été, plein de rencontres, plein d'apéros, plein de belles aventures, à la mer, à la plage, dans les îles. Où que vous soyez, on vous embrasse et à très bientôt. Bel été 2025.
Vous êtes près de 20 millions à écouter RTL chaque mois. Merci. RTL Matin le week-end, avec Antoine Cavallero.
Vous le savez, c'est la destination du jour, la Bretagne Sud, qu'on découvre avec Jean-Sébastien Petit-Demange, notre monsieur patrimoine, avec également Charles Guyard, correspondant RTL dans le Grand Ouest, en direct ce matin de Lorient. C'est le festival interceltique, coup d'envoi donné hier, c'est parti pour 10 jours, avec un thème, Charles, l'Amérique.
Cette année, ironie du sort, le festival quitte ses contrées 100% celtes, avec un détour par l'Amérique. Ironie du sort, car la thématique, en fait, a été choisie avant même le retour d'un certain Donald Trump à la Maison Blanche. Mais promis, l'Orient va bel et bien célébrer la musique et rien que la musique, loin des soubresauts qui agitent les États-Unis et le reste du monde aujourd'hui. D'ailleurs, pour le directeur artistique du festival, Jean-Philippe Moras, tout cela finalement n'est que pure logique, tant l'histoire américaine a été marquée par des vagues migratoires venues justement des pays celtiques.
Le thème des Cousins d'Amérique cette année, c'est vraiment de travailler avec toutes les diasporas nord-américaines, mettre à l'honneur toutes ces communautés irlandaises, écossaises, galloises, bretonnes, que l'on retrouve sur toute la côte est américaine. C'est vrai qu'au cours des derniers siècles, beaucoup d'Écossais, d'Irlandais, de Gallois, de Bretons, de Galiciens sont allés de l'autre côté de l'Atlantique pour différentes raisons, mais avec eux, ils n'avaient pas beaucoup de bagages, mais ils avaient au moins leur langue, leur culture, et ces langues et ces cultures, elles ont continué à perdurer de l'autre côté de l'Atlantique en évoluant des fois d'une manière différente. Donc l'année 2025 sur le Festival interceltique de l'Orient, c'est de mettre à l'honneur toutes ces communautés, tout ce qui est resté, tout ce qui a évolué de manière différente, et de faire la fête pendant 10 jours et 10 nuits à l'Orient.
L'Amérique mise à l'honneur à l'Orient, c'est un vrai clin d'œil de l'histoire, hein, puisqu'il y a 140 ans, en 1885, sachez que c'est un bateau, l'Orienté, qui avait transporté depuis le Havre jusqu'à New York, la fameuse Statue de la Liberté offerte par la France.
Merci à Charles Guyard d'avoir tendu le micro au directeur du Festival International Interceltique, plutôt, de Lorient. Avec
Mais international aussi,
voilà, on s'y perd. Tellement de celtes. Exactement. Et avec donc Alan Stivell en tête d'affiche, évidemment. Jean-Sébastien Petit-Demange, oui. Nous avons ce beau cadeau pour les auditeurs, deux logiciels, un logiciel de généalogie qui s'appelle Généatique 2026. Et un logiciel pour créer toutes sortes de choses, pour faire du scrapbooking, comme on dit. Ça s'appelle Studio Crap 9. Rappelez-nous la question, Jean-Sébastien.
En quelle année a eu lieu la première édition du Festival Interceltique de Lorient?
Alors, on a eu une foultitude de messages au 64 900 code matin, mais vous pouvez aussi appeler désormais le 3210. Le standard est ouvert. On vous attend pour la bonne réponse pour remporter ces deux logiciels offerts par RTL. Il est 8h23. Trois, vos messages. Je vous donne le petit déjeuner ch'ti de Laurence à Valenciennes. Ces tartines de maroilles, évidemment, mais aussi du camembert. Anthony.
On salue Aude Emmanuel qui nous écoute depuis Apremont en Savoie. Elle est toujours sous la tente, 15 degrés, un peu de pluie qui fait du bien. Vive le tour féminin qui est arrivé à Chambéry et qui repart de Chambéry tout à l'heure.
Jean-Seb.
Alors, puisqu'on était dans le maroilles, moi je vais être dans le fromage de chèvre, puisque Denis, notre ami charcutier de Dole, nous dit qu'il fait 14 degrés, que le ciel est couvert et qu'il prépare des brioches. Au
ça, c'est toujours une très bonne idée. Brioche au fromage de chèvre. C'est appétissant. Continuez de nous écrire. 64 900 avec le mot matin. On attend vos messages.
RTL.
L'été dans le rétro.
C'est la chronique que vous adorez sur RTL.fr, sur l'application RTL. Christophe Bourou qui nous parle d'une innovation qui a changé la vie des automobilistes. Alors, il y a eu les radars, les pompes à essence, les bip-bip de recul. Ce matin, notre spécialiste auto nous emmène à bord des véhicules d'intervention de la gendarmerie.
À la fin des années 60, la star des voitures dans les gendarmeries, c'est elle.
Notre voiture, la R4 Renault.
Renault 4, la 4L, ce sera le modèle le plus utilisé par les gendarmes. Plus de 14 000 vont être commandés, car c'est une voiture robuste, économique et surtout l'une des seules à pouvoir accueillir un gendarme avec son képi. Seulement voilà, les autoroutes dans les années 70 se développent et les vitesses augmentent. La gendarmerie va donc changer de régime. Les chevaux sont lâchés et les brigades rapides d'intervention sont créées pour faire la chasse aux chauffards.
Grâce à deux pilotes sélectionnés et aptes à la conduite rapide acquise au circuit du Mans, la gendarmerie nationale est maintenant dotée de véhicules pouvant atteindre de très hautes vitesses.
Les gendarmes se tournent alors vers un petit bolide, 4 exemplaires seulement, et c'est justement à bord de l'un d'eux que nous avons le privilège de monter à mes côtés le major Christophe Devaux, qui commande un peloton motorisé dans la Sarthe et qui a longtemps été instructeur au centre de formation de la gendarmerie à Fontainebleau.
On est en présence d'une Matrajet de 1967. Hein. C'est en fait le premier véhicule rapide d'intervention. Ça roule à 200 km/h quand même, faut le savoir. Hein. Et donc, il roulait casqué, chemisette, culotte de cheval et bottes en cuir.
N'ayez aucune crainte, ces gentlemen de la route sont tous d'excellents conducteurs. Et seuls les meilleurs sont ensuite affectés sur autoroute.
Bottes aux pieds, casque sur la tête, les gendarmes ont fière allure, même si à l'intérieur, il n'y a pas de moyen de communication.
Cette voiture-là n'était pas équipée radio à l'époque. Hein. On est en 67, hein. C'est vraiment les débuts. Donc, la Matrajet était à côté de la voiture, donc il y avait l'appareil de mesure de vitesse et les gars travaillaient de manière verbale. Ah, celle-là, elle est passée à telle vitesse. Eh bien, il y avait le gyrophare et le deux-tons et le gendarme passait le bras par la portière, vite baissé évidemment, et faisait signe au conducteur de s'arrêter. Et il disait entre autres, il criait suivez-nous, suivez-nous, et il sortait le véhicule donc en sécurité.
C'est alors que les appels de phare, une sirène et un geste impératif d'un gendarme vous contraignent à vous arrêter.
Passage éclair pour cette Alpha Jet qui va ensuite laisser la place à la berlinette, la célèbre Alpine A110 plus moderne. Plus rapide.
Lorsque vous apercevrez cette Alpine dans votre rétroviseur, il sera déjà trop tard si vous venez de commettre une infraction. Inutile d'essayer de la semer, c'est l'une des 20 Alpines de la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie.
Le 6501 bien reçu. Nous nous dirigeons en direction de Lyon en vue d'intercepter le véhicule.
Alors vous roulez à 160 à l'heure, vous restez toujours à gauche, un coup vous êtes à droite, un coup à gauche, vous ne tenez pas à votre droite. Bon monsieur, nous allons vous soumettre au contrôle de l'imprégnation alcoolique. Alors considérez ceci comme un avertissement, hein. Reposez-vous un moment, puis après...
Bon ben, je vous remercie, excusez-moi. Ah.
Au revoir monsieur.
Merci.
Et la gendarmerie a ensuite fait évoluer d'autres bolides, de la Citroën SM à la Renault Mégane RS3, dont une vingtaine de véhicules circulent toujours sur les autoroutes françaises. Puis en 2022, retour de l'Alpine avec une version musclée de 255 chevaux.
Ça y est, c'est parti et waouh, comme si on donnait un immense coup de pied dans la voiture qui file comme une bombe, 100 km/h, 110, 120. Notre pilote est imperturbable et moi, je peux vous dire que j'en mène pas large.
Là, quand on vous entend, déjà, ça inspire un peu la crainte. Hein.
C'est ça. Ouais. En général, on se déplace pas pour rien.
Et aujourd'hui, particulièrement pour ce grand chassé-croisé, gare aux excès de vitesse, pas moins d'une quarantaine de bolides sillonnent nos routes, dont une dizaine d'Alpine en version ultra rapide, avec désormais 300 chevaux sous le capot.
Christophe Bourou, série à retrouver sur RTL.fr. Demain, Christophe va nous parler d'une révolution pour la sécurité routière, l'arrivée de la ceinture en voiture. Nous sommes le samedi 2 août. Anthony, est-ce qu'on a des anniversaires?
Mais bien sûr, Antoine, on fête aujourd'hui l'anniversaire de celle qui était une jeune chanteuse au début des années 2000, qui est toujours jeune mais qui est aussi actrice maintenant, c'est Priscilla Betty.
Confesser.
Vous aviez le poster.
Ouais, je collectionnais à l'époque quelques photos, quelques posters de stars.
Targué, voilà.
J'étais fan à l'époque, écoutez.
Mais c'est normal, on vous comprend, Tony. On adore Priscilla, on l'a tous adoré Priscilla. Christiane, elle a droit à un déluge du côté de Forbach. Carole est en route pour un festival à Métabier. Yves nous écoute dans les bouchons. Anthony, quel temps pour Yves qui roule en direction du Bordelais.
Eh bien, du côté de Bordeaux, c'est le soleil qui va s'imposer toute la journée, comme d'ailleurs sur une grande partie de la façade ouest du pays, depuis la Bretagne jusqu'à la Gironde et en allant jusqu'au Limousin. Vous avez déjà du soleil. Soleil qui reviendra sur toute la moitié sud cet après-midi. On a quelques nuages ce matin près des Pyrénées et sur la plaine toulousaine. Donc au sud d'une ligne qui passe par Nantes, Bourges, Lyon, le soleil va s'imposer cet après-midi. Quelques averses simplement en montagne et seulement en montagne sur l'est des Pyrénées et le sud des Alpes. Près de la Méditerranée, le vent va souffler. Mistral et Tramontane, résultat, le risque de feu de forêt sera important aujourd'hui, risque élevé. Donc soyez vigilants. Et puis près des frontières du nord et du nord-est, des averses circulent. Elles vont se poursuivre toute la journée avec même quelques coups de tonnerre, notamment sur les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté, avec quelques éclaircies quand même. Et plus vous irez vers les plages de la Manche et vers les plages bretonnes, plus vous aurez de soleil, car les brises vont dégager le ciel. Les températures, entre 19 et 25 degrés sur la moitié nord, 24 à 31 sur la moitié sud, 28 à Toulouse, 23 à Paris et à Strasbourg et 21 à Lille.
Merci Anthony Casmara-Cartel, il est 8h30.
RTL Matin.
Soyez tous les bienvenus. L'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Antoine et bonjour à tous. C'est le point noir de l'été. Le lourd bilan des noyades. Plus de 700 entre début juin et fin juillet, dont 193 mortels. 45% de plus que l'an dernier, explique Santé publique France. La plupart se passent dans la moitié sud, mais c'est surtout les sites non surveillés que les autorités appellent à la plus grande prudence, comme dans ce plan d'eau de Bois-le-Roi en Seine-et-Marne, Thibault U.
De l'eau jusqu'au cou, Diallo plonge dans un grand lac loin du bord et des bouées qui délimitent la zone de baignade surveillée. Pour lui, le jeu en vaut la chandelle.
Mais c'est des endroits déjà un peu plus tranquilles parce qu'il y a moins de monde. Et c'est des endroits un peu plus fous parce qu'il y a de gros rochers et de ça, donc on peut sauter de haut. Donc oui, on sait que c'est dangereux parce qu'on peut glisser sur un rocher ou se noyer. Mais voilà, sans risque, en vrai, il n'y a pas de vie.
Catherine est venue pour tremper les pieds, mais elle le confesse des risques qu'elle en a pris plus jeune.
Des fois, il y a des endroits qui sont très sympathiques, ils n'aspirent pas la peur, mais bon, après, je sais qu'il peut y avoir des courants, des choses qu'on ne peut pas forcément savoir.
Adriano, lui, joue la sécurité. Avec ses filles, il ne s'aventure pas au loin. Et à la plage ou dans ce point d'eau, pour lui, c'est exactement pareil.
Le risque, c'est le même. Si on a ramené des enfants, tout ça, il faut qu'on soit toujours surveillant parce que c'est quand même dangereux. Les enfants, ils aiment d'aller plus en loin. Donc, c'est rester vigilant tout le temps. Il faut quitter les yeux.
Et les baigneurs rencontrés sont unanimes. Il est hors de question d'aller se rafraîchir dans des eaux où l'accès est totalement interdit.
Le reportage de Thibault U pour RTL. Prudence dans l'eau donc, mais aussi sur la route en ce week-end de chassé-croisé classé noir dans le sens des départs. Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, vous rappelle les bons gestes.
Le premier conseil, c'est bien sûr la patience. Ça veut dire d'accepter tout simplement que la circulation va être un peu difficile et surtout de rester concentré. La circulation, elle peut se retrouver un peu en accordéon. Il faut rester attentif. Rester attentif, c'est essentiellement faire attention aux distances entre les véhicules. Vraiment mettre le téléphone en mode silencieux, ne pas se laisser déconcentrer par le téléphone. L'autre point fondamental, c'est d'accepter de ne pas se mettre absolument un horaire d'arrivée. Parce que c'est quand on a un horaire d'arrivée qu'on se met le plus de pression, le plus de stress, alors que de toute façon, on est prisonnier d'une circulation et il faut faire les choses avec sérénité et faire des pauses dès qu'on commence à lutter contre le sommeil, parce que ça, de toute façon, on gagne assez rarement dans la lutte contre le sommeil, donc vaut mieux s'arrêter, bien souffler et repartir plus serein.
Florence Guillaume au micro RTL de Marius Roland.
Ouais, vigilance sur la route des vacances, circulation qui va être très dense. Esther Abitbol, vous surveillez tout ça pour nous ce matin. Les bouchons, d'ailleurs, déjà commencer sur la 7.
Oui Antoine, dans la Drôme notamment, 30 km de bouchons toujours entre Reventin-Vaugry et Albon et 20 km entre Pont-de-l'Isère et Étoile-sur-Rhône. Plus au nord, sur la 10, situation toujours très compliquée en Essonne. Je vous le disais, un véhicule a pris feu à hauteur de Dourdan. Un incident qui provoque d'importants ralentissements sur votre trajet. Prévoyez une trentaine de minutes pour rejoindre le péage de Longvilliers depuis l'aire de Limours-Janvry. Enfin, toujours sur l'autoroute A10, ça commence à bien boucher à l'entrée l'entrée de la rocade bordelaise. Vous qui êtes entre Saint-Vincent-de-Paul et Lormont en Gironde, votre vitesse se réduit et c'est normal. Sur cet axe, la circulation est en accordéon sur une dizaine de kilomètres.
Merci Esther Abitbol. Vous revenez nous informer sur le trafic toutes les demi-heures sur RTL. Week-end à risque aussi sur le front des incendies. 8 départements en Corse et sur le pourtour méditerranéen sont en vigilance orange au feu de forêt. Les Bouches-du-Rhône passeront même en rouge demain. Les massifs forestiers y sont interdits d'accès tout le week-end. La défense d'Achraf Hakimi dénonce une manœuvre pour lui soutirer de l'argent. Le joueur du Paris Saint-Germain sous la menace d'un procès pour viol. C'est ce qu'a requis hier le parquet de Nanterre après les accusations d'une femme en 2023. Le juge d'instruction doit décider désormais s'il accepte ou non cette demande. On y reviendra en détail dans le journal de 9h.
La ministre Rachida Dati, triplement visée par la justice, 3 signalements transmis respectivement au parquet de Paris et au parquet national financier.
Le premier pour ses propos virulents contre les juges qui ont demandé son renvoi en procès pour corruption dans l'affaire Renault-Nissan. Un autre pour des bijoux qu'elle n'aurait pas déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et un dernier, quelques 300 000 euros d'honoraires qu'elle aurait perçu de la part de GDF Suez, là aussi non déclaré.
La politique est Gabriel Attal qui veut du changement pour son parti Renaissance.
Après le chantier du programme, après l'annonce du déménagement du siège, le patron du parti présidentiel s'attaque à son nom avant la présidentielle 2027 et c'est loin d'être une première, Arthur Bélier.
Oui, décidément, c'est un parti qui a du mal à se faire un nom. Après En Marche, puis La République En Marche, puis Renaissance, le parti macroniste se cherche une quatrième étiquette. Renaissance reste peu identifié par les Français, y compris par ses sympathisants. Est forcé de reconnaître l'entourage de Gabriel Attal, qui veut, je cite, « ouvrir un nouveau chapitre ». La consultation est donc lancée. Dans un mail envoyé hier aux adhérents qu'RTL a pu consulter, Gabriel Attal leur demande quel message, quelle valeur ce nom doit-il porter. Un grand brainstorming pour trouver la bonne idée qui imprime enfin dans l'esprit des électeurs. Alors qu'il a vendu le siège historique du parti rue du Rocher mi-juillet, quelques jours après que les jeunes avec Macron sont devenus les jeunes en marche, Gabriel Attal continue pour 2027 de repeindre la façade de la maison macroniste dans des teintes plus attalistes. Le nouveau nom devrait être dévoilé lors de la rentrée du parti à Arras le 21 septembre.
Arthur Bélier pour RTL.
De l'eau du robinet contaminé au polluant éternel, des habitants de Mulhouse vont porter plainte.
Pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui ou encore distribution d'un produit nuisible à la santé. Cette semaine, le gouvernement a dévoilé une grande carte, un état des lieux, des zones touchées par ces rejets de PFAS. Mais ce collectif de riverains estime qu'on l'a prévenu trop tard et qu'on lui a caché l'ampleur du problème, Morad Jabari.
Oui, elle réunit 400 habitants. Ils dénoncent le manque de transparence car ce dépassement du taux de PFAS dans l'eau du robinet est connu depuis 2023. Mais les habitants n'ont été informés qu'en 2024 via un courrier dans leur boîte aux lettres. Il indique ce courrier que le taux de PFAS dépasse les normes, mais sans indiquer qu'il est 4 fois supérieur au seuil réglementaire et aucune restriction de consommation n'est prononcée dans cette lettre. Maître André Chamy est l'avocat du collectif d'habitants.
Quand on vous donne de l'eau qui, d'après la loi, doit être considérée comme salubre et potable sans contamination, et vous découvrez que depuis au moins 2 ans, vous buvez de l'eau non potable, contaminée, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient en colère.
En mai dernier, la préfecture du Haut-Rhin a pris un arrêté, celui tout simplement de ne plus boire l'eau du robinet, mais il concerne uniquement les femmes enceintes, les personnes fragiles ou malades, les bébés. Mais suite à cela, un grand nombre d'habitants ne consomment plus que de l'eau en bouteille, comme Sarah, elle habite Aiguenham.
Accusant des aliments, je la fais à l'eau de bouteille, après la vaisselle et tout, je fais manger de la serre à l'eau du robinet. Mais je me dis que les résidus doivent quand même rester. Par exemple, même pour l'eau du café à la maison, je mets l'eau de bouteille parce qu'ils disent que les filtres, ça suffit pas. Ça fait peur à plein de gens.
Le collectif réclame le remboursement de toutes ces bouteilles d'eau. Contacté par RTL, l'agglomération de Saint-Louis n'a pas répondu à nos sollicitations.
Les explications de Morad Jabari. À l'étranger, davantage d'aide humanitaire pour Gaza. C'est la promesse hier de l'émissaire américain qui était en déplacement dans l'enclave palestinienne. La France, elle, a commencé ses opérations de largage. 10 des 40 tonnes annoncées sont arrivées hier. L'Italie assure qu'elle va lui emboîter le pas dès samedi prochain. Il faudrait plus de 100 fois l'aide promise par Paris pour couvrir les besoins de la population civile.
8h38.
RTL Sport.
Et d'abord, on prend la direction de Singapour pour les mondiaux de natation.
Et chez les femmes, tous les yeux sont tournés vers la nageuse star de ces mondiaux. Summer McIntosh, 18 ans, est déjà triple championne olympique à Paris l'an dernier. La Canadienne vise désormais 5 médailles d'or à Singapour. Elle est bien parée. partie. Elle en compte déjà 3 et compte bien en rajouter une 4e cet après-midi sur 800 mètres. Et c'est en France d'ailleurs qu'elle a préparé ses championnats, Isabelle Langer.
C'est en effet à Antibes, avec Frédéric Vergnoux, que Summer McIntosh a passé ses 6 derniers mois. Damien Joly, le capitaine de l'équipe de France, a eu le privilège de la côtoyer.
Je suis impressionné parce que pour son jeune âge, son professionnalisme, son ouverture d'esprit, sa vision des courses.
Précoce, elle a gagné ses 2 premiers titres mondiaux à 15 ans à Singapour. McIntosh veut entrer dans la légende en décrochant 5 médailles d'or individuelles, comme l'avait fait par le passé son idole Michael Phelps. Et pour cela, elle se donne les moyens, comme l'a expérimenté Damien Joly.
Franchement, elle fait mal à la tête à l'entraînement, elle n'est pas princesse du tout, elle arrive, elle fait son échauffe, elle s'arrache tout le temps, elle fait des séries où j'avais du mal à la suivre. Hein. Donc, j'ai nagé quand même pas mal de filles qui étaient fortes à l'entraînement avec, mais là on est sur un niveau au-dessus, quoi. Elle nage comme les garçons et de voir ses résultats, je suis pas du tout étonné.
Pour aller au bout de son rêve à Singapour cet après-midi, McIntosh a certainement son plus gros défi à relever sur 800 mètres face à une autre légende de la natation, l'américaine Ledecky, 22 fois championne du monde.
Et du côté de nos Français, je vous rappelle le premier podium mondial pour Johan Ndoye-Brouard qui a fini en bronze sur le 100 mètres d'eau hier. En cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot l'assure, tout va se jouer aujourd'hui sur le Tour de France Femmes. L'actuelle deuxième au classement général mise sur l'avant-dernière étape pour prendre le maillot jaune de Kim Lecourt. Arrivée aujourd'hui en haut du col de la Madeleine, hier la Française Maëva Skiban a remporté sa deuxième étape consécutive.
La Formule 1, les qualifications du Grand Prix de Hongrie, c'est à 16h.
Le 14e Grand Prix de la saison et pas n'importe lequel pour un Français, Esteban Ocon sur As. En 2021, c'est là qu'il avait décroché sa première victoire en F1 sur ce circuit.
C'est un week-end qui est toujours très spécial pour moi avec cette victoire qu'on a réussi à atteindre il y a quelques années maintenant. Il y a trop d'années, bien sûr, ça passe vite. Mais c'est sûr que oui, c'était un moment incroyable qui restera toujours gravé. Et de revenir ici, c'est toujours extrêmement spécial. Ça a toujours été un de mes circuits favoris, pas forcément parce que j'ai gagné ce Grand Prix-là, mais parce que c'est un tracé qui est exigeant pour les pilotes et aussi pour les voitures, et on peut faire la différence. Donc, ça me plaît.
Ça reste votre meilleur souvenir en Formule 1?
Oui, c'est clair que d'être sur la plus haute marche du podium, c'est ce que tout pilote espère un jour en Formule 1. Et d'avoir pu réussir ça, on coche la case, ce qui est déjà une bonne chose, mais il en faut d'autres.
Esteban Ocon au micro RTL de Frédéric Veil. Toute l'actualité de la F1, c'est à retrouver sur la page Formule 1 du site et de l'application RTL. Et puis, 46 ans et désormais 24 titres nationaux. Indétrônable Mélina Robert-Michon hier au disque pour le début des championnats de France d'athlétisme. À retenir également Yann Schrub qui conserve son titre sur 5000 mètres et le premier sacre sur 100 mètres de Ryan Zézé qui va tenter de faire le doublé avec le 200 mètres aujourd'hui.
Merci Victor Pourchet. On vous retrouve à 10h toute l'actualité de ce samedi, rendez-vous sur rtl.fr. Chantal et Christiane, Philippe Debrive, Muriel de Fontaine-Lecomte, merci à toutes et tous d'être là, de nous écrire. Il est 8h41.
RTL.
On est sur une recette un peu provençale.
Allez, sel, piment, d'Espelette.
On ajoute de l'huile d'olive.
On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
Les recettes de l'été.
Le café est encore chaud, les croissants sont sur la table, oui. Mais quel menu pour le déjeuner? On voit ça en voyage avec Pierre Herbulot. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Après un séjour sur l'île Maurice la semaine dernière, vous nous faites voyager au Japon. Pas physiquement cette fois, mais avec une recette traditionnelle.
L'okonomiyaki, une grosse crêpe japonaise avec du chou, du poulpe et du lard grillé un peu caramélisé. Une spécialité d'Osaka, mais c'est à Antibes que je suis allé récupérer la recette auprès du chef Aurélien Véco qui dirige les cuisines du groupe hôtelier Belle Rive.
Et donc direction les Alpes-Maritimes pour la recette.
Bonjour Aurélien Véco.
Bonjour.
Alors on commence par quoi? C'est une base, une galette de chou en fait, hein, c'est ça?
On va démarrer avec le chou chinois, on taille un petit peu de chou chinois assez fort. Là, on va faire un petit peu de cébette.
Alors,
le poulpe, on va venir l'émincer assez fin.
Mais donc là, on a mis du poulpe, mais à la maison, on peut mettre des crevettes, on peut mettre un peu de lard aussi, c'est très bon.
Voilà, de la sèche aussi.
Ça peut être un plat de reste en fait.
Ça peut être un plat de reste, oui.
On a tout rassemblé dans un petit saladier pour l'instant.
C'est ça, dans un petit cul de poule. Et on va venir râper un petit peu de gingembre. Là, on va venir casser 3 œufs. Et là, on vient mettre une petite cuillère de farine de riz. En fait, ça va bien faciliter le côté moelleux de la crêpe. Et donc, on est bien. Là, on va venir peu mélangé.
L'œuf va aider à tout amalgamer en fait. Hein.
C'est ça. Donc là, on va passer en cuisson. Donc on fait chauffer une poêle.
Pour le coup, pas une poêle à crêpes. Il faut des bords un petit peu hauts parce qu'on va vouloir un peu d'épaisseur.
C'est ça. Un peu d'huile d'olive. Un peu comme une tortilla en fait. Là, on va venir verser notre appareil.
Ah oui, ça colore bien en dessous là.
Ouais. Faut que ça colore, c'est important.
Donc plutôt vite et fort.
Vite et fort, ouais. Mais là, on va la passer à environ 5 bonnes minutes à 180 degrés. Donc là, on vient de la mettre 5 bonnes minutes au four.
Ah oui, ça a coloré aussi un petit peu au-dessus. Gentiment.
Là, on va la retourner.
Alors, comment on fait pour retourner une crêpe aussi épaisse? Parce qu'on va pas la sauter comme.
Voilà, tout simplement une assiette. Et on la retourne.
On plaque une assiette.
Voilà. On va la remettre un petit peu dans la poêle. Voilà.
Là, vous appuyez dessus avec le bout de votre doigt. On sent que c'est rebondissant, c'est un peu moelleux.
Voilà. Donc, prochaine étape. Là, on va venir mettre la mayonnaise japonaise. Et après, moi, j'en mets, mais tout le monde n'en met pas. Un petit peu d'oignon crispy caramélisé. Là.
Ah oui, ouais, pour apporter une petite texture, un petit goût aussi.
Donc, on va venir la tailler en quatre. Regardez.
Oh là là, c'est un peu à cœur. C'est encore un tout petit peu coulant.
C'est ça.
On va le goûter?
Allez, on va le goûter, ouais.
Aurélien, on s'est installé en terrasse là pour goûter, tout simplement parce qu'on a une vue qui est quand même incroyable. On est face à la mer.
Face à la mer, à la baie de Golfe-Juan.
Qu'est-ce que c'est bon? Oh là là. Ça croustille sur le dessus et sur le dessous. C'est complètement moelleux et fondant à l'intérieur.
C'est-à-dire que c'est très très addictif, hein, nous. Et le chou qui est un petit peu croustillant, enfin croquant, on va dire.
Merci beaucoup, Aurélien Véco, pour cette recette japonaise. Alors, pour le coup, on n'est pas sur une recette provençale, mais avec un joli poulpe de la région et on se régale de toute façon.
Exactement.
Merci.
Et le poulpe, c'est la vie. Le conseil du jour, Pierre.
Alors, l'okonomiyaki, c'est un plat de reste par excellence. Quand vous avez votre base avec les œufs et la farine, vous pouvez y mettre ce qui traîne dans votre frigo, un reste de jambon, des crevettes, du poisson fumé, des légumes aussi un petit peu fatigués, voire des pâtes. Et oui, ils font comme ça à Hiroshima, dans le sud du Japon. Rien ne se jette en cuisine.
Rien ne se jette, tout se transforme. Merci beaucoup Pierre. Une recette à retrouver en détail sur rtl.fr. Pour les photos, rendez-vous sur le compte Instagram de Pierre Herbulot. À demain.
Et nous voilà repus, allons donc à Lorient. Premier week-end du festival interceltique. Charles Guyard est en direct. Charles, est-ce que les festivaliers commencent à sortir du lit? Est-ce qu'ils sont déjà en kilt?
Et oui Antoine, nous aussi on s'est mis à la mode interceltique, à l'image de Marcel qui prend la chose très au sérieux avec la panoplie complète, hein, chaussures, chaussettes hautes et kilt.
Le kilt, il y a un tartan tout spécifique aujourd'hui qui est le tartan de l'île de Groix, qui fait partie des 25 tartans bretons pour communier en fait avec, je dirais, nos cousins, voire nos frères écossais. Voilà, puisque l'histoire de l'Écosse et de la Bretagne sont intimement liées depuis le XIIe siècle.
C'est quoi les interceltiques pour vous? C'est un rendez-vous incontournable?
L'interceltique, c'est ce qu'on appelle la base, c'est une diaspora. Ça va en fait à l'opposé de ce qu'on trouve aujourd'hui dans notre univers quotidien, l'enfermement derrière ses frontières, l'enfermement sur soi-même. La diaspora, ça permet d'aller vers les autres.
Il y a quelque chose sous le kilt?
Oui, je suis dans le kilt et après chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'origine, effectivement, l'ordonnancement des porteurs de kilt, donc la garde écossaise qui portait le kilt, avait oublié le sous-vêtement. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est du moins ce que rapporte l'histoire. Et d'ailleurs, pour terminer, il y a une fameuse photo qui a fait le tour du monde. C'est une photo avec la reine Elisabeth et le colonel de la garde royale qui ne laissait aucun doute, effectivement, sur...
Mais sur le respect des traditions, évidemment.
Merci Charles Guyard. En direct du festival interceltique de Lorient, ça va ramener du monde, ce festival, 54e édition. 1 million de personnes attendues à Lorient dans un instant. Eh bien, on va dresser le bilan, pour l'instant mitigé, de ce début d'été. Météo capricieuse, réservations en baisse, terrasses de restaurants qui ont du mal à se remplir. C'est le chef Thierry Marx qui est avec nous, président de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. À tout de suite.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
À tous ceux qui penchent leur verre à 45 degrés pour servir une bière. À ceux qui savent décapsuler avec tout ce qu'ils ont sous la main. Un briquet ou un rebord de table. Et à ceux qui ne serviront jamais une bière dans un verre en carton. Sacrilège. Aux amateurs de bière et aux autres, chez Intermarché, pour l'achat d'une bière blonde 75 centilitres Lagoudal à 2,30€, vous avez 50% de remise immédiate sur la seconde. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 août, 1,5 litre, soit 2,30€ le litre au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Besoin de faire le plein d'énergie ? EDF vous a concocté le jus de l'été. Alors, je prends un service client haut de gamme, j'ajoute des kilowattheures pour la puissance, j'enlève quelques euros pour la légèreté, je mélange, et voilà, c'est plein d'énergie.
En ce moment, profitez de jusqu'à moins 6% sur le kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé avec une qualité de service numéro 1 du secteur. Études Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. Infos et conditions sur edf.fr/nos-offres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, chez Lidl, les fruits et légumes sont satisfaits ou remboursés?
Tu veux dire satisfaits?
Ah non patron, satisfaits avec la garantie satisfaits ou remboursés. Si les clients Lidl ne sont pas satisfaits de la fraîcheur des fruits et légumes, ils peuvent être remboursés.
C'est pas vrai.
Ah si, c'est vrai patron.
Chez Lidl, les fruits et légumes sont satisfaits ou remboursés sous 30 jours sur présentation du ticket de caisse. Voir conditions sur Lidl.fr. Lidl, partenaire fraîcheur de l'équipe Lidl Trek.
Où aller si vous avez besoin de rangement à prix très carré ? Eh ben, direction Casto ! En ce moment, l'étagère modulable 3 cubes Godot Mixit, effet chêne, est au prix jamais vu chez Castorama. De 29,90€ au lieu de 39,90€. Moins de 30€ l'étagère 3 cubes, à combiner à l'infini selon vos envies. Mais vite, les Castolidays, c'est seulement jusqu'au 18 août. Alors hop hop hop, direction Casto. Castolidays, les vacances avec Castorama.
Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'à ce soir des melons Origine France à seulement 1,09€ le melon. Et grâce à votre carte Waouh, cagnottez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits Fradéal.
Autant d'économies, je dis chapeau, melon !
Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin et drive. Melon Charentais jaune, Origine France, calibre 750 à 975 grammes, catégorie 1. Jeu Waouh non valable le week-end. Voir modalités détaillées en magasin et sur Auchan.fr.
RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero.
Il est 8h50, c'est le week-end où tout le monde se croise. Le premier du mois d'août, les juilletistes font leur retour. Oui, mais étaient-ils si nombreux ? On pose la question ce matin à Thierry Marx. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous faites la gentillesse d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes chef étoilé, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Selon l'Observatoire économique du tourisme, la tendance est à la baisse, moins 2% de réservations par rapport à l'an dernier. Comment vous l'expliquez ?
Moins 2% de fréquentation, c'est vrai. On bénéficie encore quand même de l'attractivité de l'international à l'international parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques, donc on voit ça. Le touriste est un peu en baisse, mais il est quand même au rendez-vous. Le problème, ce qui n'est pas au rendez-vous, c'est le pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, moins 30% de fréquentation dans les restaurants, ça fait que beaucoup de nos confrères sont en difficulté.
On va parler des restaurants, mais d'abord les hôtels. Est-ce qu'ils souffrent plus que jamais de la concurrence avec les logements meublés type Airbnb ?
Bien sûr, il y a une vraie concurrence avec les meublés touristiques qui font que eux n'ont pas de normes finalement, alors qu'on demande aux hôteliers d'avoir des normes qui leur coûtent très cher. Et puis cette concurrence est devenue une concurrence assez déloyale. On a milité pour ça, on a combattu pour ça, on a eu la loi Lemeur, on attend toujours l'application de ces décrets de la loi Lemeur, mais en tout cas
c'est quoi l'idée? C'est de limiter les nuitées?
C'est de limiter les nuitées et de permettre et d'avoir un vrai contrôle sur ces meublés touristiques. Aujourd'hui il n'y avait quasiment pas de contrôle sur les meublés touristiques et ça fait que ça donner des niches fiscales extrêmement intéressantes. Donc aujourd'hui, au détriment de l'hôtellerie, de l'emploi, etc. Donc on mène ces combats et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette dérégulation du marché est un vrai problème.
Est-ce que après tout de même, vous reconnaissez que ces logements touristiques meublés, ça permet à certaines personnes de pouvoir voyager à moindre frais, à moindre coût ?
Non, on conteste pas tout en bloc. C'est-à-dire que quand les meublés touristiques bloquent quasiment une ville, le maire de cette ville finalement comme un gardien de parc d'attractions, ça marche plus. Quand ça prive les gens qui vivent dans ces villes ou ces villages de ne plus avoir de logement, enfin je veux dire tout ça, c'est une dérégulation du marché et on attend une régulation pour remettre les choses un petit peu en place. On n'est pas contre tout en bloc, mais à un moment donné cette dérégulation du marché, elle est plus possible.
Thierry Marx, parlons des restaurants. On parle d'une baisse de fréquentation de 15 à 20% pour les restaurants traditionnels. Vous parliez de pouvoir d'achat. C'est devenu trop cher de se mettre à table ?
C'est devenu trop cher de se mettre à table, bien souvent parce que les charges sont beaucoup trop lourdes, les charges d'énergie, les charges de coûts matières, même si on nous dit que l'énergie a baissé un petit peu, on voit bien que c'est pas tout à fait vrai, parce que là, sur le gaz, ça va réaugmenter. Et puis, il y a les charges liées au salaire. Nous avons augmenté, nous avons voulu cette augmentation des salaires, mais aujourd'hui, les entreprises sont plombées par leurs coûts de production. Et puis, c'est pas conjoncturel, c'est structurel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut regarder sur le long terme, et on voit bien qu'on n'a pas su protéger notre restauration. Moi, je défends depuis de nombreuses années une loi cadre sur le fait maison, pour que les établissements qui font du fait maison, qui protègent cette diversité française et cette qualité de la cuisine française, puissent être reconnus en tant que tels. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et tout le monde est restaurateur, y compris la grande distribution, à qui on lâche cette année 600 millions d'euros grâce au titre restaurant.
Juste sur l'inflation, parce qu'on a quand même vu les prix dans les supermarchés de l'alimentation baisser, ça s'est pas forcément répercuté au restaurant?
Non, pas du tout. On dit que ça a baissé, mais ça a pas retrouvé le prix que nous avions avant la hausse. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de yo-yo, mais le yo-yo ne redescend pas sur le plancher. Donc on est resté au prix moyen, et aujourd'hui le prix moyen est plus haut que celui qu'on avait connu. Donc aujourd'hui, le coût matière première, encore le professionnel sait gérer son coût matière première, mais les coûts de l'énergie, pour donner un exemple assez concret, 2023, 30% de hausse du coût de l'énergie, 8000 fermetures d'établissements qui ne pouvaient plus régler la facture. En sachant que ces établissements qui font de moins en moins de marge ont quasiment plus de trésorerie. Donc à chaque fois qu'on avance aujourd'hui, je vous donne là aussi un autre chiffre qui est important, on ferme 25 restaurants par jour aujourd'hui.
C'est effarant.
C'est effarant, et en plus on va aller fermer des établissements qui faisaient, dans la plupart des cas, du fait maison, et ils sont remplacés par des gens qui ont industrialisé notre profession, et voilà, qui trouvent que c'est plus intéressant d'ouvrir des poches ou d'avoir moins de personnel. Ils font 8% de marge, quand quelqu'un qui fait du fait maison fait 2% de marge. Mais à un moment donné, celui qui fait du fait maison jette l'éponge. Et comment on va garder notre attractivité de notre gastronomie française, c'est toute la question.
Des restaurants qui sont donc pris à la gorge par toutes ces charges. Vous parlez de mieux encadrer le fait maison. On a longtemps évoqué l'idée d'un logo pour indiquer les plats surgelés. Ça a été ça végète. Est-ce que vous êtes favorable à cette piste?
Mais c'était une mauvaise piste. Est-ce qu'on aurait demandé aux agriculteurs de dire on va faire un poulet label et un poulet non label? Non, il faut faire un label et il faut faire.
Mais il existe déjà le logo fait maison.
Il n'existe pas. Le logo fait maison doit être encadré par une loi. Une loi qui passe donc par le Parlement.
Ça, on est d'accord, on le voit dans certains menus.
Alors, d'accord, mais il faut pouvoir le vérifier. Donc nous, on attend une loi cadre qui soit en capacité d'être vérifiée. On a un décret de 2014 qui a été déjà suffisamment construit. Nous étions prêts, à un moment donné, de pouvoir faire acte de cette loi sur le fait maison et de la faire passer au Parlement. Il y a eu une tentative d'un non-fait maison, ce qui devenait une usine à gaz absolument insupportable. Ce qui faisait que votre boulanger avait le droit de marquer son sandwich fait maison, or qu'il ne produit pas le jambon, et que le cafetier qui faisait un sandwich, lui, avec fait maison, avec un jambon plutôt de premier choix, et une baguette évidemment qu'il achetait chez le boulanger, lui n'avait pas le droit au fait maison. Donc c'était ridicule, il faut revenir à une loi cadre sur une loi qui peut être transpartisane. Ce qui permettra à la gastronomie française, aux restaurateurs français, d'avoir ce logo encadré, fait maison. Et là, vous aurez un sésame pour que on puisse protéger la restauration en général. Ça ne concerne pas que la restauration française, et ça concerne l'ensemble des métiers de bouche. Aujourd'hui, les boulangers, les pâtissiers, tous ces gens disent on veut un label fait maison parce que ça garantit et ça nous protège. Aujourd'hui, je ne vois que des stands où s'ouvrir de cookies qui sont des produits industriels. On les malaxe un petit peu, on les pose sur une plaque, on les met au four et on me dit que c'est du fait maison. C'est pas du fait maison, c'est du gras et du sucre aromatisé. Donc il faut défendre cette loi sur le fait maison.
La défense du fait maison pour sauver nos restaurants. Le message est passé. Merci Thierry Marx.
Merci.
Président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci d'avoir été avec nous en studio 1-2 août. Bonne journée.
Merci.
Bon travail. Dans un instant, c'est le journal de 9h avec vos conditions de circulation, ces journées noires sur les routes. Toute l'actualité de ce samedi. À tout de suite.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend.
Une urgence sur votre pare-brise? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Si
vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, votre supermarché Aldi a tout d'un très bon supermarché. Puisque c'est l'enseigne la plus récompensée saveur de l'année avec 70 produits qui vous feront dire « Franchement, sur la qualité, ils sont quand même fortis chez Aldi, hein, chérie ?» Oui, vraiment, votre Aldi a tout d'un très bon supermarché et tout ça à prix discount, évidemment. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Info sur aldi.fr, étude Monadia, 70 produits testés par 4200 consommateurs de septembre à décembre 2024.
Moi, en voiture, la ceinture, ça me sert toujours.
Mon père, il dit pareil.
Et même que des fois, on la met pas.
Bah, moi, une fois, j'avais oublié de m'attacher. Et ma mère, elle a freiné, je me suis cognée contre son siège.
Et si nous transmettions la bonne attitude, à l'avant comme à l'arrière, ceinture obligatoire.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pour vous aussi, Emma?
Et pour toute la famille?
Eh oui! Tous les vendredis, samedis et dimanches, exclusivement avec ma carte Netto, cagnotez sur votre carte 10% du montant dépensé sur tout le rayon pain, viennoiserie et pâtisserie.
Oh, trop bon!
Au fait, on dit pain au chocolat ou chocolatine?
Alors là, je sais pas.
L'offre est valable pour les deux! Toutes les fins de semaine!
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
IKEA.
Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée?
Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi?
J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement.
Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Non mais mon fils pensait qu'une dorade royale, c'était un poisson avec une couronne. Trop mignon !»
Eh bien, figurez-vous que le bon plan du week-end, c'est la dorade royale à 7,69€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a